6. Que si nous reprenons à l'origine du monde l'histoire des dons de la grâce divine chez les femmes et des égards dont elles ont été l'objet, nous verrons que sa création lui a constitué certains avantages de supériorité. Elle a été créée dans le paradis, tandis que l'homme a été créé hors du paradis. Ce qui doit rappeler aux femmes que le paradis est leur patrie naturelle et qu'elles doivent chercher dans le célibat une vie conforme à celle du paradis. C'est ce qui fait dire à saint Ambroise dans son livre du paradis « Dieu prit l'homme qu'il avait fait et l'établit dans le paradis. » Vous le voyez, il a pris celui qui était déjà pour le placer dans le paradis. Ainsi, l'homme a été fait hors du paradis et la femme dans le paradis. L'homme qui a été créé dans un lieu moins noble se trouve le meilleur et la femme qui a été créée dans un lieu supérieur se trouve la moins bonne. D'autre part, le Seigneur a racheté dans la personne de Marie la faute d'Ève, origine de tous les maux de ce monde, avant que celle d'Adam eût été réparée par Jésus-Christ. Et de même que la faute, la grâce nous est venue par la femme et les saints privilèges de la virginité ont refleuri. Déjà, Anne et Marie avaient offert aux veuves et aux vierges le modèle de la profession religieuse quand Jean et les apôtres donnèrent aux hommes des exemples de vie monastique. Que si, après Ève, nous considérons la vertu de Déborah, de Judith et d'Esther, nous conviendrons qu'elle est pour le sexe fort un sujet de honte singulière. Déborah, en effet, juge d'Israël au défaut des hommes, livra bataille, vainquit les ennemis, délivra le peuple de Dieu et remporta le plus complet des triomphes. Judith, sans armes, accompagnée d'une seule servante, attaqua un ennemi terrible, trancha de son propre glaive la tête d'Holoferne, seule enfin, tailla en pièces une armée entière et délivra son peuple qui désespérait. Esther, par une inspiration secrète de l'Esprit-Saint, bien qu'unie contre la loi à un prince idolâtre, prévint le dessein de l'impie Aman et le cruel arrêt du roi et, en moins d'un instant, pour ainsi dire, retourna contre son adversaire la sentence prononcée par la volonté royale. On regarde comme un prodige de valeur que David, avec une fronde et une pierre, ait attaqué et vaincu Goliath. Judith n'était qu'une veuve et elle n'avait ni pierre, ni fronde, ni arme d'aucune sorte quand elle marcha contre une armée ennemie pour la combattre. C'est par la parole seule qu'Esther délivra son peuple et, tournant contre ses ennemis le décret de proscription, les précipita dans le piège qu'ils avaient tendu. Délivrance insigne, en souvenir de laquelle les Juifs célèbrent tous les ans une fête solennelle, honneur que n'obtint aucun homme par ses actions, si éclatantes qu'elles aient été. Qui n'admirerait l'incomparable fermeté de la mère que, selon l'histoire des Maccabées, l'impie Antiochus fit saisir avec ses 7 enfants et essaya vainement de les contraindre à manger contre la loi de la chair de porc? Cette mère, oubliant tous les sentiments de la nature et de l'humanité pour ne plus voir que Dieu, après avoir glorieusement subi le martyre dans chacun de ses enfants que, par ses saintes exhortations, elle envoya devant elle à la couronne qui les attendait, consomma son propre martyre. Feuilleton tout l'Ancien Testament, que trouvons-nous qui puisse être rapproché de la fermeté de cette femme? Le démon, après avoir épuisé toutes ses violentes tentations contre le saint homme Job, connaissant la faiblesse de la nature humaine aux approches de la mort, dit « L'homme donnera la peau d'autrui pour conserver la sienne et tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. » En effet, l'horreur naturelle que nous inspirent les suprêmes angoisses de la mort est si vive que souvent nous sacrifions un membre pour sauver l'autre et qu'au prix de la vie, il n'est pas de mal que nous appréhendions. Et cette mère a eu le courage de livrer non seulement tout ce qu'elle avait, mais sa vie et celle de ses enfants pour ne pas violer un point de la loi. Et quel point, je vous prie? Voulait-on la contraindre à renoncer à Dieu ou de sacrifier aux idoles? Non, il s'agissait de manger des viandes dont la loi interdisait l'usage. Ô mes frères, ô vous qui avez embrassé la vie monastique, vous qui, tous les jours, transgressant sans pudeur les statuts de la règle et les vœux de notre profession, aspirez à ces viandes qu'ils vous défendent, Que direz-vous de la fermeté de cette femme ? Avez-vous si bien perdu toute vergogne qu'un tel exemple ne vous pénètre pas de confusion ? Sachez, mes frères, le reproche que le Seigneur fait aux incrédules en parlant de la reine du Midi. La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, contre cette génération et la condamnera. La fermeté de cette femme déposera contre vous d'autant plus haut que ce qu'elle a fait est plus grand et que les vœux qui vous enchaînent à la règle sont plus étroits. Aussi a-t-elle mérité que l'Église instituât une messe et des prières commémoratives en l'honneur de la lutte que son courage a soutenue. Privilège qui n'a été accordé à aucun des saints antérieurs à la venue du Seigneur, bien que, suivant la même histoire, Éléazar, ce vénérable vieillard, un des premiers scribes de la loi, eut déjà, pour la même cause, obtenu les palmes du martyr. Mais, nous l'avons dit, plus le sexe de la femme est faible, plus sa vertu est agréable à Dieu, plus elle est digne de récompense. Et le martyr du pontife, auquel aucune femme ne participa, n'a point obtenu les honneurs d'une fête spéciale, parce que l'on ne s'étonne pas que le sexe le plus fort ait à subir les plus fortes épreuves. Aussi, l'Écriture dit-elle, se répandant en louanges sur cette femme, « Cependant, cette mère admirable, au-dessus de toute mesure et digne de l'éternel souvenir des fidèles, cette mère, qui vit périr ses 7 fils en un même jour, supportait leur mort avec calme à cause de l'espérance qu'elle avait en Dieu. Elle les encourageait virilement, les uns après les autres, remplis de l'esprit de la sagesse et alliant à la tendresse de la femme un mâle courage. La fille de Jephté ne suffirait-elle pas seule à l'honneur des vierges ? Elle qui, pour que son père ne fût pas coupable d'avoir manqué à un vœu, même irréfléchi, pour que la victime promise acquittât le don de la grâce divine, l'excita elle-même, après la victoire, à lui percer le sein, qu'aurait-elle donc fait dans l'arène du martyr si les infidèles avaient voulu la contraindre à renier Dieu et à abjurer sa foi ? Interrogée au sujet du Christ avec le chef des apôtres, aurait-elle répondu comme lui « Je ne connais pas cet homme ?» Laissée libre par son père pendant 2 mois, elle revint vers son père, à l'expiration du délai, s'offrir au sacrifice. Elle va au-devant de la mort, elle vient la chercher, loin de la craindre. Elle paie de sa vie le vœu insensé de son père, elle le dégage de sa parole au prix de son sang, par respect pour la vérité. Quelle horreur n'eût-elle pas eue elle-même pour le parjure, elle qui n'en peut supporter la pensée chez son père ? Quelle n'était pas l'ardeur virginale de son amour pour son père charnel et pour son père spirituel ? Par sa mort, en même temps qu'elle épargne à l'un le parjure, elle satisfait à la promesse faite à l'autre. Aussi, cette grandeur de courage dans une jeune fille a-t-elle mérité, par exception, que chaque année, les filles d'Israël, se rassemblant en un même lieu, célèbrent ses funérailles par des hymnes solennels et versent de pieuses larmes de commisération sur le sacrifice de l'innocente victime. Sans nous arrêter à d'autres exemples, qu'y a-t-il eu de plus nécessaire à notre rédemption et au salut du monde entier que le sexe féminin qui a donné le jour au Sauveur ? C'est cet insigne honneur que la femme, qui la première osa forcer la tente de Saint-Hilarion, opposait à sa surprise. « Pourquoi détourner les yeux ? » dit-elle. « Pourquoi éviter ma prière ? Ne songez pas que je suis femme, mais que je suis malheureuse. C'est mon sexe qui a donné le jour au Sauveur. Est-il une gloire comparable à celle que le sexe a acquis dans la personne de la Mère du Seigneur ? Le Rédempteur aurait pu, s'il l'eût voulu, naître d'un homme, lui qui a formé la femme du corps de l'homme. Mais il a voulu faire tourner à l'honneur du sexe le plus faible la gloire insigne de sa propre humilité. Il aurait pu, pour naître, choisir dans la femme une partie plus noble que celle qui sert à la fois à la conception et à l'enfantement des autres hommes. Mais pour la gloire incomparable du sexe le plus faible, il a ennobli l'organe générateur de la femme par sa naissance, bien plus qu'il n'avait fait celui de l'homme par la circoncision. Et maintenant, laissons la dignité particulière des vierges et passons à d'autres femmes, suivant le plan que j'ai annoncé. Voyez la grandeur de la grâce que la venue du Christ a aussitôt répandue sur Élisabeth, qui était mariée, et sur Anne qui était veuve. Zacharie, mari d'Élisabeth et grand prêtre du Seigneur, n'avait pas encore recouvré la parole que son incrédulité lui avait fait perdre quand, à l'arrivée et à la salutation de Marie, Élisabeth, remplie de l'Esprit de Dieu et ayant senti son enfant tressaillir dans son sein, prophétisa la première que Marie avait conçue et devint ainsi plus que prophète. Elle l'annonça sur le champ et engagea la mère du Seigneur à remercier Dieu des grâces dont il a comblé. Le don de prophétie ne paraît-il pas plus accompli dans Élisabeth, qui a connu aussitôt la conception du Fils de Dieu, que dans saint Jean, qui ne l'annonça que longtemps après sa naissance ? J'ai appelé Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Je n'hésiterai pas à appeler de même Élisabeth le prophète des prophètes, elle ou cette bienheureuse veuve, Anne, dont j'ai longuement parlé. 7. Que si nous examinons jusque chez les gentils ce don de prophétie, que la Sibylle paraisse ici la première et qu'elle nous dise ce qui lui a été révélé au sujet de Jésus-Christ. Si nous comparons avec elle tous les prophètes et Ésaïe lui-même, lequel, selon saint Jérôme, est moins un prophète qu'un évangéliste, nous verrons encore dans cette grâce la prééminence des femmes sur les hommes. Saint Augustin, invoquant son témoignage contre les hérétiques, dit « Écoutons ce que dit la Sibylle, leur prophétesse, au sujet de Jésus-Christ. Le Seigneur, dit-elle, a donné aux hommes fidèles notre Dieu à adorer. Et ailleurs, reconnaissez-le pour votre Seigneur, pour le Fils de Dieu. » Dans un autre endroit, elle appelle le Fils de Dieu symbolon, c'est-à-dire conseiller. Et le prophète dit, ils l'appelleront l'admirable, le conseiller. Dans le 18e livre de la Cité de Dieu, saint Augustin écrit encore, quelques-uns rapportent que dès ce temps-là, la Sibylle d'Érythrée, d'autres disent la Sibylle de Cume, avait fait une prédiction en 27 vers qui ont été traduits en latin et qui contiennent ce passage. En signe de jugement, la terre se mouillera de sueur. Un roi qui doit vivre dans tous les siècles descendra du ciel, revêtu de chair, pour juger l'univers. Et en réunissant les premières lettres de chaque vers grec, on trouve Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Lactance cite aussi plusieurs prophéties de la Sibylle au sujet de Jésus-Christ. Il tombera ensuite, dit-elle, entre les mains des infidèles. De leurs mains sacrilèges, ils donneront à Dieu des soufflets, de leur bouche impure, ils lui cracheront des crachats empoisonnés. Et lui, il tendra humblement ses épaules sacrées à leur cou, il recevra en silence leurs soufflets, de peur qu'on ne reconnaisse le Verbe et que l'enfer ne l'apprenne. Ils le couronneront d'épines. Pour nourriture, ils lui donneront du fiel, pour boisson, du vinaigre. Telle sera la table de leur hospitalité. Nation insensée, tu n'as pas compris que ton Dieu méritait les hommages de toute la terre et tu l'as couronné d'épines, tu as mêlé pour lui le fiel et le vinaigre. Le voile du temple se déchirera et, au milieu du jour, la nuit couvrira la terre pendant 3 heures. Il mourra et, après 3 jours de sommeil, sortant des enfers, il apparaîtra à la lumière pour montrer aux hommes le principe de la résurrection. Virgile, le plus grand de nos poètes, connaissait sans doute et avait médité cet oracle de la Sibylle quand, dans sa 4e églogue, il prédit, sous le règne de César Auguste et le consulat de Pollion, la naissance miraculeuse d'un enfant envoyé du ciel sur la terre pour effacer les péchés du monde entier et ouvrir aux hommes une ère pleine de merveilles. Il le dit lui-même, il avait été éclairé à ce sujet par l'oracle de Cume, c'est-à-dire par la Sibylle. Et il semble, par ses vers, convier les hommes à se réjouir, à chanter et à écrire sur la naissance future de ce sublime enfant. Auprès de ce fait, tous les autres sujets lui paraissent faibles et grossiers. Muse de Sicile, dit-il, élevons un peu le sujet de nos chants. Les arbrisseaux et l'humble bruyère ne plaisent pas à tout le monde. Voici que sont arrivés les temps prédits par l'oracle de Cume. Les siècles vont se dérouler dans un ordre nouveau. Déjà reviennent et la Vierge et le règne de Saturne. Déjà une race nouvelle descend du haut des cieux. Pesez toutes les paroles de la Sibylle, quel résumé clair et complet de ce que la foi chrétienne doit croire de Jésus-Christ. Elle n'a rien oublié, ni sa divinité, ni son humilité, ni sa venue pour les deux jugements. Le premier, par lequel il a été injustement condamné au tourment de la passion, le second, par lequel il viendra dans sa majesté juger le monde suivant les lois de la justice. Elle fait mention et de sa descente aux enfers et de la gloire de sa résurrection. Et en cela, elle s'élève au-dessus des prophètes, que dis-je, au-dessus des évangélistes eux-mêmes, qui, de la descente aux enfers, ne disent presque rien. 8. Peut-on ne pas admirer l'entretien aussi familier qu'étendu dont Jésus-Christ daigna seul à seul honorer la Samaritaine, une païenne, avec tant de bonne grâce que les apôtres eux-mêmes n'en retenaient point leur étonnement. Après l'avoir réprimandé sur son aveuglement et sur la multitude de ses amants, il voulut lui demander à boire, lui qui, nous le savons, ne demanda jamais d'aliments à personne. Les apôtres se présentent aussitôt et lui offrent des vivres qu'ils viennent d'acheter. « Maître, mangez » disent-ils. Mais, nous le voyons, ils refusent en leur disant, pour les remercier de leur service, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Il demande à boire à cette femme, et celle-ci décline une telle faveur. « Comment, vous qui êtes juif, dit-elle, me demandez-vous à boire, à moi qui suis samaritaine ?»« Les juifs n'ont pas commerce avec les samaritains. »« Vous n'avez rien, d'ailleurs, ajoute-t-elle, pour puiser de l'eau, et le puits est profond. » Ainsi, il demande à boire à une femme infidèle qui lui refuse, et il ne se soucie pas des aliments que lui offrent ses apôtres. Quelle grâce témoigner au sexe faible, je vous prie, que de demander de l'eau à cette femme, lui qui donne la vie à tout le monde. Quel est le but de cette leçon, si ce n'est de montrer que la vertu des femmes lui est d'autant plus agréable que leur nature est plus faible, et qu'il a d'autant plus soif de leur salut que leur vertu est plus admirable ? Aussi, quand il demande à boire à une femme, fait-il entendre que ce qu'il veut surtout, c'est qu'elle étanche sa soif pour le salut des femmes. Il appelle cette boisson nourriture. « J'ai à manger, dit-il, une nourriture que vous ne connaissez pas, et il donne l'explication de cette nourriture en disant « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Désignant par là que la volonté particulière de son Père, c'est de travailler au salut du sexe le plus faible. Nous lisons dans la Sainte Écriture que le Seigneur eut aussi un entretien familier avec Nicodème, le chef des Juifs, qu'il le reçut même secrètement et qu'il l'éclaira sur son salut. Mais Nicodème n'en recueillit pas sur le champ un si grand fruit. La Samaritaine, au contraire, fut aussitôt remplie du don de prophétie et elle annonça la venue du Christ non seulement chez les Juifs, mais chez les gentils, en disant « Je sais que le Messie qui s'appelle Christ va venir, et lorsqu'il sera venu, il nous annoncera tout. » Et sur ces paroles, nombre de personnes coururent vers le Christ, crurent en lui et le retinrent 2 jours, lui qui, cependant, dit ailleurs à ses disciples « Éloignez-vous de la voie des gentils, n'entrez pas dans la ville des Samaritains. » Saint Jean rapporte bien que Philippe et André annoncèrent à Jésus-Christ que plusieurs gentils, qui étaient montés à Jérusalem pour célébrer un jour de fête, désiraient le voir. Mais il ne dit pas qu'il les ait reçus, ni qu'il leur ait accordé, sur leur prière, une grâce aussi considérable que celle qu'il a faite à la Samaritaine, qui ne demandait rien de pareil. C'est par elle qu'il commence sa prédication chez les gentils. Non seulement il la convertit elle-même, mais par elle, il gagne une foule de prosélytes. Les mages, à peine éclairés par l'étoile et convertis, attirèrent à Jésus-Christ, dit-on, un grand nombre d'hommes par leurs enseignements et leurs exhortations. Mais seuls, ils l'approchèrent. Quelle autorité Jésus-Christ ne donna-t-il donc pas à la Samaritaine parmi les gentils, à la Samaritaine qui annonça sa venue et, prêchant ce qu'elle avait entendu, fit en si peu de temps, dans ceux de son peuple, une si riche moisson. Feuilletons l'Ancien Testament et l'Évangile. Nous trouverons que les grâces de résurrection les plus éclatantes ont été accordées à des femmes et que les miracles ont été accomplis, sinon pour elles, au moins sur leurs prières. Élie et Élisée ressuscitent des enfants à la sollicitation de leur mère, et c'est à des femmes que le Seigneur lui-même, en ressuscitant le fils d'une veuve, la fille du chef de la synagogue et Lazare sur la demande de ses sœurs, a fait la faveur de ce grand miracle. Aussi l'apôtre, dans son épître aux Hébreux, dit-il « Les femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. » En effet, cette jeune fille ressuscitée recouvra son propre corps et les autres femmes eurent la consolation de voir revivre ceux dont elles pleuraient la mort. Ce qui prouve encore quelle grâce le Seigneur a toujours accordée aux femmes. Il les comble de joie d'abord en les ressuscitant elles-mêmes, elles et ceux qui leur étaient chers, puis il les rend les premières par un insigne privilège, témoin de sa propre résurrection. Ce privilège, les femmes l'ont mérité peut-être par la tendresse de la compassion qu'elles témoignèrent au Seigneur au milieu d'un peuple de persécuteurs. Car, ainsi que Luc le rappelle, tandis que les hommes le conduisaient pour le crucifier, les femmes le suivaient, pleurant sur son sort et se lamentant. Et lui, se retournant vers elles, et comme si, à l'article de la mort, il eût voulu reconnaître leur pieux dévouement par sa miséricorde, il leur prédit les malheurs de l'avenir, afin qu'elles pussent s'en garantir. « Filles de Jérusalem, dit-il, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos fils. Car voici que les jours viendront, dans lesquels on dira « Heureuses les femmes stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. » Saint Matthieu rapporte que la femme du juge inique qu'il avait condamné s'était employée avec zèle à le délivrer. Tandis qu'il siégeait sur son tribunal, sa femme envoya lui dire « Ne vous mêlez en rien de l'affaire de ce juste, car j'ai été aujourd'hui étrangement tourmentée par une vision à cause de lui. » C'est encore une femme qui, tandis qu'il prêchait, seule au milieu de la foule, éleva la voix pour entonner sa louange et s'écrier « Bienheureux le sein qu'il a porté, bienheureuses les mamelles qui l'ont nourri. » Par quoi elle mérita que, blâmant doucement ce pieux élan de foi, bien qu'il fût fondé sur une vérité, il répondit aussitôt « Dites plutôt, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent fidèlement. » Seul, entre tous ses apôtres, saint Jean obtint le privilège d'être appelé le bien-aimé. Et ce même Jean dit de Marthe et de Marie « Jésus chérissait Marthe, Marie sa sœur et Lazare. » Le même apôtre qui, seul, jouit du privilège d'être le bien-aimé du Seigneur, ainsi qu'il le rappelle, accorde à des femmes l'honneur de ce même privilège qu'il ne reconnaît à aucun autre apôtre. Et s'il y associe le frère de ces femmes, il les nomme avant lui comme étant les premières dans l'amour du Seigneur. Je veux, revenant aux femmes chrétiennes, publier en admirant et admirer en publiant les effets que la miséricorde divine a accomplis jusque dans des filles publiquement vouées à la prostitution. Est-il rien de plus abject que la conduite de Marie-Madeleine et de Marthe l'Égyptienne dans leur première vie? Et en est-il que la grâce divine est élevée, après leur conversion, à un plus haut degré d'honneur et de mérite? L'une, nous l'avons dit, ne quitte plus la communauté des apôtres. L'autre, ainsi qu'il est écrit, déploie une vertu surhumaine dans les épreuves des anachorètes, en sorte que le courage de ces saintes femmes l'emporte sur celui des solitaires des deux sexes, et que les paroles du Seigneur aux incrédules « Les courtisanes vous précéderont dans le royaume de Dieu » peuvent être appliquées même aux hommes fidèles, et que ces derniers, suivant la différence de sexe et de vie, deviendront les premiers les derniers. Enfin, qui ne sait que ce sont des femmes que les exhortations de Jésus-Christ et le conseil de l'apôtre ont enflammées d'un tel zèle de chasteté que, pour conserver à la fois la pureté de l'âme et du corps, elles s'offrirent elles-mêmes en holocauste aux martyrs et s'efforcèrent, en conquérant cette double couronne, de suivre dans toutes ses voies l'agneau, époux des vierges. Cette perfection de vertu, rare chez les hommes, nous la trouvons fréquemment chez les femmes. Quelques-unes ont poussé si loin ce zèle de chasteté de la chair qu'elles n'ont pas craint de se défigurer pour ne pas perdre la pureté immaculée dont elles avaient fait vœu et arriver vierge à l'époux des vierges. Et lui, il a montré combien ce pieux dévouement des saintes femmes lui était agréable. Dans une éruption de l'Etna, un peuple entier d'infidèles recourant à la protection de la bienheureuse Agathe, il permit qu'en opposant le voile de la sainte au flot de la lave, le peuple fut sauvé corps et âme du terrible incendie. nous ne voyons pas qu'aucun capuchon de moine ait jamais eu le don d'opérer un tel prodige. Nous savons bien que, touchés par le manteau d'Élie, les eaux du Jourdain se divisèrent et que le même manteau servit à ouvrir à Élisée un passage à travers la terre. Mais c'est une foule immense de gentils que le voile de cette Vierge a sauvé corps et âme, et c'est le chemin du ciel qui leur a ouvert par leur conversion. Une chose encore relève singulièrement la dignité de ces saintes femmes. C'est qu'elles se consacrent elles-mêmes par ces paroles « Il m'a engagée par son amour, c'est à lui que je suis fiancée ». Telles sont en effet les paroles de sainte Agnès et la formule par laquelle les Vierges prononcent leurs vœux et s'unissent à Jésus-Christ. 9. Veut-on suivre chez les gentils l'histoire des établissements de votre ordre et se rendre compte de la considération dont ils jouirent pour en tirer des exemples propres à vous encourager? On reconnaîtra sans peine qu'il s'est fait parmi eux certains essais de cette nature, l'esprit de la foi excepté, et qu'il existait, chez eux comme chez les Juifs, maintes pratiques que l'Église a conservées en les améliorant. Qui ne sait, en effet, que l'Église a emprunté à la synagogue toute la hiérarchie ecclésiastique, depuis le porteur jusqu'à l'évêque, ainsi que l'usage de la tonsure, qui est le caractère du clerc, et les jeûnes des quatre temps, et la fête des azimes, et tous les ornements sacerdotaux, et certaines cérémonies de dédicace et d'autres formes de consécration? Qui ne sait que, par la plus utile des mesures, elle a maintenu chez les peuples convertis la hiérarchie des dignités séculières, celle des rois et des autres princes, certaines dispositions de la loi des Juifs gentils, certains préceptes de leur morale, bien plus qu'elle leur a pris divers grades de dignités ecclésiastiques, la pratique de la continence et le vœu de la pureté corporelle? Nos évêques, en effet, et nos archevêques actuels, tiennent le rang que tenaient chez eux les flamines et les archiflamines, et les temples qu'ils avaient élevés aux démons ont été consacrés au Seigneur et dédiés à la mémoire des saints. Nous savons aussi que la virginité a été particulièrement en honneur chez les gentils, tandis que l'anathème de la loi forçait les Juifs à se marier, et que, chez les gentils, cette vertu ou pureté de la chair était en telle considération que leurs temples étaient remplis d'assemblées de femmes qui se vouaient au célibat. C'est ce qui fait dire à saint Jérôme, dans son Épître aux Galates, livre 3, « Que devons-nous faire, nous autres chrétiens, quand nous voyons, à notre honte, que Junon a ses femmes consacrées ?»« Vesta, ses vierges, et d'autres idoles, leurs fidèles vouées à la continence. » Il distingue les femmes et les vierges, faisant entendre par là que les unes avaient connu des hommes, tandis que les autres étaient vierges, c'est-à-dire avaient vécu seules. Car fausse, seule et monachute, moine, c'est-à-dire solitaire, ont le même sens. Le même, dans son premier livre contre Jovinien, après avoir cité un grand nombre d'exemples de la continence des femmes païennes, ajoute « Je sais que j'ai multiplié les exemples de ces femmes ». C'est afin que les femmes chrétiennes, qui font bon marché de la vie évangélique, apprennent du moins la chasteté à l'école des païens. Plus haut, dans le même passage, il exalte la vertu de continence, à ce point qu'il semble que ce soit cette pureté de la chair que Dieu ait eue particulièrement pour agréable chez tous les peuples, et qu'il ait voulu signaler par des grâces ou des récompenses, par des prodiges même chez les infidèles. Que dirais-je, continue-t-il, de la Sibylle d'Érythrée, de celle de Cume et des huit autres, ou des dix autres suivant Varron? Leur vertu caractéristique était la virginité, et le don de prophétie était la récompense de cette virginité. Et encore, on rapporte que Claudia, vierge vestale, soupçonnée de libertinage, conduisit avec sa ceinture un vaisseau que des milliers d'hommes n'avaient pu traîner. Prodige auquel l'évêque de Clermont, Sidoine, dans son épître à son livre, fait allusion en ces termes. Telle ne fut point Anakil, ni celle dont tu fus le père, ô Tricipitin, ni cette vierge consacrée à Vesta Phrygienne, qui, sur les eaux gonflées du Tibre, traîna un vaisseau avec les tresses de ses cheveux. D'autre part, saint Augustin, au livre 22 de la Cité de Dieu, dit Si nous en venons aux miracles qui ont été faits par leur Dieu et qu'ils opposent à nos martyrs, ne trouverons-nous pas qu'ils militent pour nous et sont complètement au profit de notre cause? Certes, parmi les grands miracles de leur Dieu, le plus grand est celui que cite Véron au sujet de cette vestale qui, accusée injustement de s'être déshonorée, remplit un crible de l'eau du Tibre et la porta devant ses juges sans qu'il s'en échappât une goutte. Qui a soutenu le poids de cette eau à travers tant d'ouvertures? N'est-ce pas Dieu qui, dans sa toute-puissance, a ôté la pesanteur à un corps terrestre et en a fait un corps vivifié, lui, l'esprit vivifiant? Ne soyons pas surpris si, par ses miracles et par d'autres, Dieu a exalté la chasteté des infidèles eux-mêmes ou s'il a permis qu'elle fût exaltée par le démon. C'était pour exciter les fidèles à pratiquer cette vertu avec d'autant plus de zèle qu'ils la verraient plus honorée chez les infidèles. Nous savons que c'est à la dignité et non à la personne de Caïphe que le don de prophétie a été accordé et que, si les faux apôtres ont joui de l'honneur éclatant de faire des miracles, ce n'est pas à leur personne mais à leur ministère qu'ils le doivent. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que le Seigneur ait accordé cette faveur non à la personne des femmes infidèles, mais à la vertu de continence qu'elles pratiquaient pour sauver l'honneur d'une vierge et mettre à néant l'accusation d'impudeur dont elle était l'objet? Il est certain que l'amour de la continence est une vertu même chez les infidèles, tout comme le respect de la foi conjugale est un don de Dieu chez tous les peuples. Et il ne faut pas s'étonner que Dieu honore non l'erreur des infidèles, mais ses dons, par les prodiges qu'il leur accorde, alors surtout que ces prodiges sont, comme je l'ai dit, un moyen de sauver l'innocence accusée et de confondre la malice des méchants. Sans compter que c'est pour les fidèles un motif d'autant plus pressant d'atteindre une vertu si hautement glorifiée qu'ils ont moins de mérite que les infidèles à s'abstenir des plaisirs charnels. C'est de là que saint Jérôme, d'accord avec la plupart des docteurs, a conclu, non sans raison, contre l'hérétique jovinien, cet ennemi de la chasteté dont j'ai parlé plus haut, qui devait rougir de trouver chez les païens ce qu'il ne trouvait pas chez les chrétiens. Peut-on méconnaître, en effet, les dons du Seigneur dans la puissance des rois infidèles, alors même qu'ils en mésusent, dans l'amour de la justice, dans la mansuétude qui ne tiennent que des lumières de la loi naturelle, et dans les autres vertus royales? Peut-on dire que ce ne soient pas des vertus, parce qu'elles sont mêlées de vices? Et cela, quand, suivant le raisonnement de saint Augustin et l'évident témoignage de la raison, il ne peut y avoir de vices que dans une bonne nature? Comment, en effet, ne pas approuver la maxime du poète « Les gens de bien fuient le mal par amour pour la vertu ». Ne fût-ce que pour encourager les princes à imiter de telles vertus, combien ne vaut-il pas mieux accepter que contester le miracle accompli selon Suétone, par Vespasien, quand il n'était pas encore parvenu à l'Empire, au sujet de cet aveugle et de ce boiteux qu'il guérit, ou ce que saint Grégoire raconte de l'âme de Trajan. Les hommes savent trouver une perle dans un bourbier et séparer le grain de la paille. Dieu peut-il méconnaître les dons qu'il a faits aux infidèles et maudire en eux ses bienfaits? Plus les signes de ses bienfaits sont éclatants, plus il prouve qu'il en est l'auteur et que la méchanceté des hommes ne saurait en altérer le caractère, mieux il montre quelles doivent être les espérances des fidèles en voyant la façon dont sont traités les infidèles. De quel respect était entourée chez les infidèles la chasteté des vierges vouées au service des temples? La punition réservée à celle qui l'a violée le fait connaître. Juvénal, en parlant de cette punition dans sa quatrième satire, dit de Crispinus, qui en est l'objet, « Hier encore, auprès de lui, était couchée, couronnée de bandelettes, une vestale qui va descendre toute vive sous la terre. » Ce qui a fait dire à saint Augustin, dans sa cité de Dieu, « Les anciens Romains eux-mêmes enterraient toute vive les prêtresses de Vesta, coupables d'incontinence, tandis que les femmes adultères, ils se contentaient de les frapper de quelques peines, mais jamais de la peine capitale. Tant il est vrai qu'ils vengeaient plus sévèrement ce qu'ils regardaient comme le sanctuaire des dieux que la couche des hommes. Chez nous, les princes chrétiens ont veillé avec d'autant plus de soin à la chasteté monastique qu'on ne peut douter qu'elle soit encore plus sacrée. C'est ce que prouve la loi de l'empereur Justinien. Si quelqu'un, dit-il, ose, je ne dis pas ravir, mais seulement essayer de séduire, en vue du mariage, les vierges consacrées à Dieu, qu'il soit puni de mort. la discipline ecclésiastique cherche plutôt le repentir du pécheur que sa perte. Avec quelle sévérité, cependant, elle prévient les chutes. Le pape Innocent, écrivant à Vicricius, évêque de Rouen, lui disait, chapitre 13, « Si celles qui épousent Jésus-Christ spirituellement et qui reçoivent le voile des mains du prêtre viennent à se marier publiquement ou à se livrer secrètement à un commerce illicite, elles ne devront être admises à la pénitence qu'après la mort de l'homme avec lequel elles auront vécu. » Quant à celles qui, n'ayant pas encore reçu le voile, auraient faim de vouloir vivre dans l'état de virginité, bien qu'elles n'aient pas reçu le voile, elles devront être, pendant un certain temps, soumises à la pénitence parce que le Seigneur avait reçu leur serment. En effet, si un contrat passé entre les hommes ne peut être rompu sous aucun prétexte, combien moins un pacte fait avec Dieu pourra-t-il être impunément violé ? Saint Paul dit que les femmes qui ont rompu le veuvage qu'elles s'étaient promis de garder ont mérité condamnation pour avoir violé leur engagement. Que sera-ce donc des vierges qui n'ont pas gardé la foi qu'elles avaient jurée? C'est ce qui a fait dire au fameux Pelage, dans sa lettre à la fille de Maurice, « La femme adultère vis-à-vis de Jésus-Christ est plus coupable que celle qui s'est rendue adultère vis-à-vis d'un homme. » Aussi l'Église romaine a-t-elle eu raison de prononcer récemment sur un tel crime une sentence si sévère qu'elle juge à peine digne de la pénitence les femmes qui souillent par un commerce impur un corps consacré à Dieu. 10. Que si nous voulons examiner quels soins, quelles attentions, quelle tendresse les saints pères, sollicités par l'exemple du Seigneur et des apôtres, ont toujours eu pour les femmes consacrées à Dieu, nous verrons qu'ils les ont soutenues, encouragées, avec un zèle plein d'amour dans leurs pieuses résolutions, et qu'ils ont incessamment éclairé, échauffé leur foi par des instructions sans nombre et des encouragements multipliés. Sans parler des autres, il me suffira de citer les principaux docteurs de l'Église, Origène, Ambroise, Jérôme. Le premier, le plus grand philosophe des chrétiens, se voua avec tant de zèle à la direction des religieuses qu'il alla jusqu'à se mutiler lui-même au rapport de l'histoire ecclésiastique pour écarter tout soupçon qui aurait pu l'empêcher de les instruire ou de les exhorter. D'autre part, qui ne sait quelle moisson de divins ouvrages saint Jérôme a laissé en réponse aux demandes de Paul et d'Eustochie? Il déclare lui-même que son sermon sur l'Assomption de la Mère du Seigneur a été composé à leur prière. « Je ne puis, dit-il, rien refuser à vos sollicitations, enchaîné que je suis par ma tendresse. J'essaierai donc ce que vous voulez. » Nous savons cependant que plusieurs grands docteurs, aussi élevés par leur rang que par la dignité de leur vie, lui ont souvent écrit pour lui demander quelques lignes sans pouvoir les obtenir. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, dans son second livre des Rétractations, j'ai adressé aussi au prêtre Jérôme, qui demeure à Bethléem, deux livres, l'un sur l'origine de l'âme, l'autre sur cette pensée de l'apôtre Jacques. Quiconque, observant d'ailleurs toute la loi, la viole sur un seul point, est coupable comme s'il l'avait violée tout entière. Je voulais avoir son avis sur les deux ouvrages. Dans le premier, je me bornais à poser la question sans la résoudre. Dans le second, je ne cachais pas ma solution. Mais je désirais savoir s'il la trouvait bonne et je lui demandais ce qu'il en pensait. Il a répondu qu'il approuvait les questions, mais qu'il n'avait pas le loisir d'y répondre. Je n'ai pas voulu faire paraître ses ouvrages tant qu'il a vécu, dans la pensée qu'un jour, peut-être, il me répondrait et que je pourrais publier sa réponse en même temps. Ce n'est qu'après sa mort que je les ai publiés. Voilà donc ce grand homme qui, pendant de longues années, attend de saint Jérôme quelques mots de réponse. Et nous avons vu que, sur la prière de ces pieuses femmes, saint Jérôme s'est épuisé, soit à écrire de sa main, soit à dicter nombre d'ouvrages considérables, leur témoignant en cela plus de respect qu'à un évêque. S'il soutient leur vertu avec tant de zèle, s'il n'ose la contrister, n'est-ce pas par égard pour la fragilité de leur nature? Le zèle de sa charité pour elle est parfois si grand qu'il semble franchir les bornes de la vérité dans ses éloges, comme s'il avait éprouvé lui-même ce qu'il dit ailleurs. La charité n'a pas de mesure. C'est ainsi qu'au début de la vie de sainte Paul, il s'écrit, comme pour captiver l'attention du lecteur, « Alors même que tous mes membres se changeraient en langue et que toutes les parties de mon corps parleraient le langage des hommes, je ne saurais rien dire qui fût digne des vertus de la sainte et vénérable Paul. » Cependant, il a écrit aussi les vies de certains pères vénérables qui brillent de tout l'éclat des miracles et dans lesquels se trouvent des prodiges bien plus étonnants. Mais il n'est personne qu'il paraisse exalter aussi haut que cette veuve. D'autre part, dans une lettre à la Vierge Démétriade, tel est l'éloge dont il marque son entrée en matière, qu'il semble tomber dans une flatterie excessive. « De tous les sujets que j'ai abordés, dit-il, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, soit de ma main, soit en m'aidant de la main de mes secrétaires, celui que j'entreprends de traiter aujourd'hui est le plus difficile. Il s'agit d'écrire à Démétriade, Vierge du Christ, qui tient dans Rome le premier temps, et par la noblesse, et par ses richesses. Si je veux rendre justice à toutes ses vertus, je risque de passer pour un flatteur. » C'était sans doute pour le saint homme une tâche bien douce d'encourager par quelque artifice de parole le sexe faible dans l'exercice austère de la vertu. Mais les actes sont, en telle matière, des preuves plus sûres encore que les paroles. Or, il a entouré ces pieuses femmes d'une prédilection si marquée que cette prédilection, malgré sa sainteté incomparable, n'a pas laissé d'imprimer une tache à sa réputation. Il nous le fait connaître lui-même dans sa lettre à Haselia en parlant de ses faux amis et de ses détracteurs. « Il en est qui me regarde comme un criminel couvert de toutes les ignominies, dit-il. Vous faites bien néanmoins de considérer comme bons ces méchants en les jugeant d'après votre conscience. Il est dangereux de juger le serviteur d'autrui. Qui calomnie le juste sera difficilement pardonné. J'en ai connu qui me baisaient les mains et qui, par derrière, me déchiraient avec une langue de vipère. Ils me plaignaient du bout des lèvres. Au fond du cœur, ils se réjouissaient. Qu'ils disent s'ils ont trouvé en moi d'autres sentiments que ceux d'un chrétien. On ne me reproche que mon sexe et l'on ne songeait pas à me le reprocher si Paul ne venait à Jérusalem. Ou encore, avant que je connusse la maison de sainte Paul, c'était sur mon compte, dans la ville entière, un concert de louanges. Il n'y avait qu'une voix pour me reconnaître digne du pontificat. Mais du jour où, pénétré du mérite de cette pieuse femme, j'ai commencé à lui rendre hommage, à la fréquenter, à la prendre sous ma tutelle, de ce jour-là, toutes les vertus m'ont abandonné. Et quelques lignes plus bas, « Saluez, dit-il, Paul et Eustochie. Quoi qu'on en dise, elles sont à moi en Jésus-Christ. » Nous lisons que la familiarité que le Seigneur témoigne à la bienheureuse pécheresse inspira de la défiance aux pharisiens qu'il avait invités à sa table. « Si cet homme était prophète, dit-il, il saurait bien ce qu'est cette femme qui le touche. Est-il donc étonnant que, pour gagner de telles âmes, les saints qui sont les membres de Jésus-Christ, sollicités par son exemple, ne reculent pas devant le sacrifice de leur réputation ? Ce fut pour éviter de tels soupçons qu'Origène, dit-on, eut le courage de faire le sacrifice d'une partie de son corps. Ce n'est pas seulement par leurs enseignements et leurs exhortations qu'a éclaté l'admirable charité des saints pour les femmes. Parfois aussi, cette charité s'est manifestée dans les consolations qu'ils leur ont adressées avec un tel zèle de compassion que, pour calmer leur peine, ils ont été jusqu'à leur promettre des choses contraires à la foi. Tel est le caractère de la consolation adressée par saint Ambroise aux sœurs de Valentinien après la mort de cet empereur. N'osa-t-il pas garantir que leur frère était sauvé, lui qui n'était que catéchumène, quand il mourut ? Ce qui est bien peu conforme à la foi chrétienne et à la vérité évangélique. Mais ces saints docteurs savaient combien la vertu du sexe le plus faible a toujours été agréable à Dieu. Aussi, tandis que nous voyons des vierges sans nombre se proposer pour modèle la chasteté de la mère du Seigneur, nous connaissons peu d'hommes qui aient obtenu le don de cette vertu et qui aient pu suivre l'agneau sans tache dans toutes ses voies. Quelques-unes, dans leur pieux zèle, se sont données la mort afin de conserver cette pureté de la chair qu'elles avaient consacrée à Dieu. et non seulement ce sacrifice n'a pas été l'objet d'un blâme, mais ce martyr d'elle-même leur a généralement mérité la canonisation de l'Église. Bien plus, si des vierges fiancées, avant de s'unir charnellement à leur mari, prennent la résolution d'embrasser la vie monastique et de renoncer à leur époux terrestre pour prendre le céleste époux, liberté leur en est laissée, ce qui n'a jamais été, que nous sachions, accordé aux hommes. Quelques-unes furent enflammées d'un tel zèle de chasteté que, non contentes de prendre, malgré la défense de la loi, un habit d'homme, elles se retirèrent parmi des moines où l'éminence de leur vertu les a rendues dignes de devenir abbés. Telle sainte Eugénie, avec la complicité de l'évêque Hélénus, que dis-je, sur son ordre, revêtit l'abbé d'homme et, après avoir été baptisée par lui, fut admise dans un monastère de religieux. Je pense, très chère sœur en Jésus-Christ, avoir suffisamment répondu à la première de vos récentes demandes, je veux dire à celle qui était relative à l'autorité de votre ordre et à la considération due à sa dignité. Vous embrasserez maintenant les devoirs auxquels vos vœux vous obligent, avec d'autant plus de zèle que vous en connaissez mieux l'excellence. Je répondrai à la seconde demande s'il plaît à Dieu. Que vos mérites et vos prières m'en obtiennent la grâce. Adieu.